Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h, la rediffusion le mardi matin à 10h. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Pendant une heure, nous allons feuilleter ensemble la revue de presse de l'actualité scientifique. Nous sommes le 18 avril. Quelques informations au niveau de l'éphéméride. Il n'y a pas grand-chose en fait, j'ai pas trouvé grand-chose le 18 avril. Alors, par exemple, il y a 3 ans, l'épave du SS Montevideo Maru, c'est un navire japonais qui avait été coulé par les États-Unis. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, il y a 3 ans, on l'a redécouvert en mer de Chine méridionale, l'épave. Il y avait 1000 ressortissants australiens captifs à bord lorsqu'il a été donc bombardé et coulé par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a 3 ans, on l'a retrouvé en Chine méridionale. Voilà ce que l'on trouve au niveau sciences et techniques de l'éphéméride. C'est vrai que c'est un peu pauvre. Des fois, on a des découvertes, des brevets, des inventions ou autres. Pas grand-chose. Naissance, quand même, le 18 avril 1838 de Pierre-Émile Lecoq de Bois-Baudran. C'est un chimiste français. À 28 ans, il s'engage dans des recherches sur les éléments chimiques. Il étudie également la physique et la chimie à l'École polytechnique de Paris. Et à partir de 1859, il dispose d'un petit laboratoire privé à Paris où il effectue des recherches sur l'application de la spectroscopie aux analyses chimiques. Et à l'aide de ces méthodes, il découvre les indices d'un nouvel élément chimique. Il appelle cet élément le gallium. Alors, gallium en l'honneur de la France, c'est pas de gallus qui veut dire coq en latin, mais gallium en l'honneur de la France. Donc, nouvel élément chimique, le gallium en 1875. Il va pas s'arrêter là. 4 ans après, il isole le samarium et en 1886, il découvre le dysprosium. Donc, vraiment des éléments chimiques, mais il avait un petit laboratoire privé qui lui permettait donc à Pierre-Émile Lecoq de Bois-Baudran de pouvoir avoir ces nouveaux éléments chimiques. Nous sommes dans le 19e siècle. Décès le 18 avril 1802 d'Erasmus Darwin. Ah, mais ça nous dit quelque chose, Darwin, mais Erasmus peut-être un peu moins. En fait, il est poète, médecin, botaniste, inventeur britannique. Et en fait, 70 ans avant les travaux de son petit-fils Charles Darwin. Ah oui, là, Charles Darwin, ça nous dit bien quelque chose. Eh bien là, c'est le grand-père, Erasmus Darwin. Il amorce de façon significative les réflexions sur l'origine de la vie et son évolution. Il est face un peu au créationnisme qui est dominant à l'époque. Nous sommes au XVIIIe siècle. Eh bien, Erasmus Darwin, il commence voilà, à poser un petit peu les bases. Et son petit-fils, Charles Darwin, oui, lui va pouvoir aller un petit peu plus loin dans ses recherches sur la théorie de l'évolution, bien évidemment. Mais c'est intéressant de savoir en fait, que dans la famille de Darwin, c'est un petit peu de père en fils, ou en tout cas de grand-père à petit-fils. Que cette passion sur ces sujets-là se transmettait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, il touchait un petit peu à tout. Parce que médecin, botaniste, donc à la fois le corps humain, les plantes, inventeur également, et puis par-dessus tout, poète. Alors là, si vous avez des scientifiques poètes, c'est quand même assez formidable, bien sûr. Au niveau de l'actualité scientifique, on va partir dans l'espace et on va aller sur Mars. Le site d'atterrissage du rover Perseverance n'a pas été choisi au hasard, depuis l'espace. Les scientifiques avaient en effet déjà identifié des indices qui laissaient penser que l'endroit où il atterrit ce rover, c'est le fameux cratère J0, on en avait déjà parlé dans cette émission. C'était autrefois un lac alimenté par une rivière ou un fleuve. Et depuis son arrivée en 2021, eh bien, ce rover Perseverance confirme ses hypothèses et il révèle la présence de dépôts de carbonate dans le fond du cratère et il dévoile en détail l'incroyable architecture sédimentaire de la formation qui est présente au niveau de l'ancienne ébouchure du fleuve. Il y a une espèce de delta un petit peu, alors, on connaît le delta du Rhône par exemple. Là c'est pareil, au niveau de ce cratère il y a une espèce de delta également et on a pu avoir un petit peu plus d'informations. Ces données ont permis de reconstruire une espèce de passé martien d'historique de Mars. Un historique de Mars qui était une planète chaude et humide où l'eau coulait librement à la surface de la planète et où la vie aurait peut-être pu se développer. Il y a toujours cette grosse hypothèse de la vie sur Mars. Donc voilà, on se dit que ça aurait pu peut-être avoir eu lieu. Mais ces indices qui sont observables en surface pourraient en cacher d'autres plus enfouis, plus profondément, dans le sous-sol de Mars. Et c'est ce que permettrait d'avoir des informations et de témoigner d'une histoire encore plus ancienne. Et donc, afin de pouvoir faire des recherches dans les niveaux plus profonds, les ingénieurs ont pensé à doter ce rover d'un petit instrument qui est utilisé quotidiennement sur Terre par les géophysiciens. C'est un radar à pénétration de sol, ce qu'on appelle un géoradar, donc un radar qui va pouvoir analyser ce qui se passe dans le sol de Mars. Le principe, il est simple, ce sont des ondes électromagnétiques à haute fréquence qui sont envoyées dans le sol par un émetteur. Elles vont se propager dans le sous-sol à différentes vitesses selon les matériaux qu'il y aura. Et ces ondes vont pouvoir se réfléchir sur les interfaces entre deux couches de propriétés physiques différentes. Et les signaux qui sont réfléchis vers la surface, ils vont être captés par un récepteur au niveau de persévérance. Et le temps entre l'émission et la réception de l'onde, ça va permettre de reconstruire une image de la structure du sous-sol. Et ce principe, il est similaire à celui de l'imagerie sismique, sauf que le type d'onde utilisé n'est pas le même. La profondeur atteinte par l'imagerie géoradar va dépendre de la fréquence utilisée et va de quelques dizaines de centimètres, ce qui va permettre d'avoir une imagerie très précise, à plusieurs dizaines de mètres, ce qui va permettre d'avoir une résolution plus faible. Et au cours de ses pérégrinations sur le bord externe de ce fameux cratère G0, eh bien Perseverance a ainsi pu imager le sous-sol martien sur une profondeur de 35 mètres. C'est quand même pas mal d'avoir des informations sur ce qu'il se passe dans le sous-sol de Mars au niveau de 35 mètres. L'analyse des données a ensuite permis à une équipe de chercheurs d'observer l'architecture sédimentaire sous donc les roues de ce rover Perseverance. Ces résultats ont été publiés dans la revue Science Advances et ces résultats ont mis en évidence une histoire hydrologique complexe antérieure à la formation de ce grand delta qu'on avait vu en surface. Les chercheurs ont en effet identifié les traces de chenaux de rivières fossiles et de dépôts deltaïques. L'ensemble, en fait, ça pourrait correspondre à un ancien système fluvial sous forme de méandre un peu, avec un espèce de réseau de rivières un peu en tresse qui aurait été présente. Cela suggère qu'un environnement deltaïque existait déjà entre 4 et 3 milliards d'années. Donc c'est une information assez intéressante. Cette étude montre que cette région de ce cratère G0, là où atterrit Perseverance, a abrité un environnement à queue très tôt dans l'histoire de la planète et sur une fenêtre temporelle plus longue qu'on ne le pensait. C'est ça qui est assez intéressant et qui est assez nouveau dans les données que l'on arrive à analyser sur Mars. Et ça étant de fait la période durant laquelle cette région aurait pu offrir des conditions favorables à la vie. Donc voilà, on est encore sur cette supposition, sur cette hypothèse. Et voilà, on se dit qu'il y avait de l'eau, il y avait de l'eau en profondeur, il y avait de l'eau en profondeur sur un temps plus long que l'on avait imaginé au départ. Donc s'il y avait de l'eau, est-ce qu'il y avait la vie? C'est toute la question, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment la grande question. Je veux dire, si on arrive à trouver des preuves qu'il y avait de la vie sur Mars, c'est une vraie révolution, bien évidemment. Pour l'instant, on n'en est pas là, bien évidemment. Mais on avance petit à petit et le fait d'avoir quand même une imagerie à 35 mètres de profondeur du sous-sol de Mars, ça permet d'avoir des nouvelles connaissances. Alors il y a un temps qui est assez long, parce qu'il y a un temps d'analyse, d'exploitation des résultats bien évidemment, d'interprétation par la suite, mais on avance quand même grâce à Perseverance qui a atterri en 2021. Ça fait déjà 5 ans que Perseverance est sur Mars, ça passe très vite, on en avait parlé dans cette émission bien sûr, mais c'est assez, je sais pas, je trouve que c'est toujours très... Voilà, c'est très complexe, c'est très mystérieux, bien sûr. C'est aussi la science. Et puis, comme je vous l'ai dit, cette décennie 2020 va être vraiment intéressante au niveau spatial, bien sûr. Donc, on en parle assez régulièrement dans cette émission. Autre chose, on revient sur Terre et sur un autre sujet, sur cette découverte archéologique totalement inattendue. La dernière découverte a été réalisée près de l'école primaire Joséphine Baker dans l'est de la ville de Dijon. Les archéologues ont mis à jour un squelette remarquablement conservé, installé au fond d'une fosse d'environ 1 mètre de diamètre. Le corps se trouvait en position assise, les mains posées sur les genoux, le dos appuyé contre la paroi orientale de la tombe et le regard tourné vers l'ouest. Ce squelette rejoint plusieurs découvertes similaires réalisées récemment sur le même site, donc du côté de Dijon. 4 autres individus enterrés de manière comparable ont été exhumés au début du mois. L'an dernier déjà, il y a eu 13 squelettes qui avaient été retrouvés à 20 de mètres de là et tous semblent datés d'une période comprise entre 300 et 200 avant notre ère, donc c'est à l'époque gauloise. Et en incluant des fouilles qui ont été menées il y a 30 d'années, près d'une 20 de tombes de Gaulois enterrés en position assise ont été recensées dans ce secteur restreint du centre de Dijon. À l'échelle mondiale, environ 75 sépultures de ce type sont connues, ce qui fait de Dijon l'un des principaux lieux de découverte de ces pratiques funéraires. Il y a des exemples similaires qui ont également été signalés en France, en Suisse, au Royaume-Uni, et les fouilles archéologiques menées depuis 30 ont révélé que Dijon occupait autrefois une place importante dans le monde gaulois. Ce peuple celte, apparu vers le 5e siècle avant notre ère, s'étendait sur de vastes territoires correspondant aujourd'hui à la France, la Belgique, la Suisse et un petit peu plus à l'est. Et malgré leur présence étendue, les connaissances sur les Gaulois restent limitées. Les principales sources d'informations écrites proviennent souvent d'auteurs extérieurs, notamment Jules César, qui a conquis la Gaule en 50 avant Jésus-Christ, et dont les récits peuvent être bien sûr biaisés. Alors pour Régis Labaume, qui est chercheur à l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, l'INRAP, ces découvertes sont particulièrement marquantes. Il a indiqué à l'AFP, je cite, « Vu le nombre et la qualité de ces sépultures, on peut affirmer qu'il existait une importante implantation gauloise à Dijon. Malgré l'abondance des découvertes, eh bien les raisons de ces enterrements en position assise, ça reste quand même mystérieux. Les chercheurs ignorent encore si cette posture reflète un statut particulier, une forme de punition ou un rituel spécifique. Il y a certains indices qui soulèvent d'autres interrogations. Par exemple, il y a 5 décors qui présentent des traces de violence, dont l'un porte une blessure mortelle au crâne. Les sépultures sont également presque dépourvues d'objets. Seul un bracelet a été retrouvé, ce qui permet de confirmer la datation gauloise. Et les individus identifiés sont tous des hommes. Ils mesuraient entre 1m62 et 1m82 quand même, à l'exception d'un enfant découvert lors de fouilles plus anciennes. Et l'étude de leurs restes apporte quelques informations sur leur mode de vie. C'est ça qui est aussi intéressant. Leurs dents sont remarquablement bien conservées, probablement en raison d'une alimentation pauvre en sucre. Leurs os montrent en revanche des traces d'arthrose, qui est le signe d'une activité physique intense, souvent notamment au niveau des jambes. Et malgré ces éléments, les archéologues restent prudents. Nous n'avons pas d'hypothèse privilégiée, c'est ce qu'explique l'archéoanthropologue Anna Maria Latrone, qui est également membre de l'INRAP. Selon elle, l'absence de la couche supérieure qui recouvrait autrefois les tombes empêche pour l'instant de comprendre pleinement le contexte de ces sépultures. Être archéologue peut parfois être très frustrant, c'est ce qu'elle reconnaît. Mais voilà, des Gaulois enterrés dans une posture étrange, découverte en plein Dijon, donc le mystère s'épaissit. On n'a pas encore l'explication de tout ça. On constate pour l'instant et on analysera un petit peu plus tard. Là, eh bien, on écoute un peu de musique sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. We'll be right back. Feeling with Words, c'était Green Vaughan sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Biotine sur Graphite.
Pardon, je n'avais pas appuyé sur le bouton tous les samedis entre 12h et 13h. Et le mardi matin pour la rediffusion, vous nous écoutez sur Graphite pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. C'est Biotine, bien évidemment, depuis plusieurs années sur l'antenne de Graphite. On va partir dans l'espace. En radioastronomie, il arrive que des signaux inhabituels viennent perturber la routine des observations. La plupart du temps, ces anomalies trouvent rapidement une explication. Une étoile variable, par exemple, une planète, un simple parasite. Acide technique, mais dans certains cas, l'origine du signal se révèle bien plus surprenante. C'est ce qui est arrivé au chercheur canadien Scott Tiley, connu pour ses travaux d'observation de satellites dits fantômes, hein, des engins spatiaux oubliés ou abandonnés en orbite. C'est ce qu'explique cet article de Futura Science. Un soir, alors qu'il surveille le spectre radio depuis son installation personnelle, il capte un signal régulier dans une bande de fréquence spécifique. Un détail attire immédiatement son attention. Cette bande est normalement réservé aux transmissions envoyées depuis la Terre vers les satellites. Et en théorie, aucun signal ne devrait donc provenir du ciel sur ces fréquences-là. Et après avoir vérifié son matériel, le chercheur confirme que l'anomalie ne provient pas d'un problème technique. Et en analysant la source du signal, il découvre qu'elle semble provenir d'un groupe de satellites appartenant à l'entreprise SpaceX. Il ne s'agit pas de satellites de la constellation Starlink, qui est destinée à fournir un accès Internet à l'échelle mondiale, mais cela vient d'un autre programme beaucoup plus discret qui s'appelle Starshield. Ce programme est conçu pour des usages militaires au service du gouvernement américain, un programme qui est nettement moins documenté que les projets civils de l'entreprise, bien évidemment. Et en poursuivant son analyse, Scott Tiley affirme avoir identifié plus de 170 satellites susceptibles d'émettre sur cette bande de fréquence, pourtant strictement réglementée. Donc, la bande de fréquence, elle est en effet étroitement encadrée par l'Union internationale des télécommunications, qui est une agence spécialisée de l'ONU, et elle est chargée d'organiser et de réguler l'utilisation du spectre radio à l'échelle mondiale. Et son rôle est d'éviter les interférences entre les différents systèmes civils, les systèmes scientifiques et les systèmes militaires. La découverte soulève donc une question intrigante. Comment un observateur indépendant a-t-il pu détecter des satellites associés à un programme militaire ? Eh bien, c'est un peu toute la question. Chaque satellite laisse derrière lui une espèce de signature radio particulière. Et en analysant la structure du signal et ses variations dans le temps, il est possible d'obtenir des informations précieuses sur l'objet qu'il émet. Un phénomène physique qui est connu sous le nom d'effet Doppler, qui permet notamment de mesurer les variations de fréquence liées au mouvement du satellite. Et en exploitant toutes ces données, eh bien, il devient possible d'estimer la vitesse de l'engin, sa trajectoire, son orbite. On a un petit peu plus d'informations sur sa localisation. Et c'est précisément ce type d'analyse que Scott Tiley affirme avoir réalisé depuis son jardin à l'aide d'équipements accessibles aux radios amateurs. C'est une démarche qui lui aurait permis d'identifier un réseau de satellites associé à un programme spatial classifié secret des fonds. C'est quand même assez étonnant. Derrière ces émissions radio se profile un projet spatial d'envergure, donc Starshield, qui a été lancé en 2021. C'est un programme qui résulte d'un accord entre SpaceX et l'agence américaine responsable des satellites de renseignement. Le contrat est estimé à environ 1,8 milliard de dollars et ce projet vise à développer une espèce de constellation de satellites capables d'observer la Terre en permanence depuis l'orbite basse avec une résolution très élevée. Donc l'agence américaine, elle évoque un système spatial parmi les plus performants jamais développés. Mais la plupart des capacités techniques du programme restent classifiées. Ni SpaceX ni les autorités américaines n'ont commenté publiquement les détails de cette constellation. Alors, au-delà de la question technique des fréquences radio, cette affaire, elle illustre une évolution plus profonde. C'est que l'espace est devenu un domaine stratégique où se mêlent les intérêts civils, commerciaux et militaire. Et en un peu plus de 20 ans, Elon Musk et son entreprise SpaceX ont transformé une start-up ambitieuse en partenaire stratégique du Pentagone. Le réseau Starlink en a donné une illustration concrète lors de la guerre en Ukraine, parce que ce système a permis de maintenir les communications malgré la destruction des infrastructures qui étaient présentes sur Terre. Donc cette efficacité, elle soulève néanmoins des questions. Lorsqu'une entreprise privée peut décider d'activer ou de limiter un service dans une zone de guerre, la frontière entre technologie et décision politique devient plus floue, bien évidemment. Et dans cette compétition spatiale, SpaceX n'est pas la seule entreprise engagée. Le groupe Amazon développe actuellement sa propre constellation de satellites avec le projet qui s'appelle Project Kuiper. De son côté, l'opérateur OneWeb, soutenu notamment par le gouvernement britannique, dispose déjà de plusieurs centaines de satellites en orbite. Parallèlement, la Chine poursuit le développement de ses propres constellations, souvent liées à ses ambitions technologiques et militaires. Résultat, l'orbite terrestre basse, elle se remplit à un rythme inédit et les frontières entre usages civils, usages commerciaux et les usages stratégiques, ben tout ça, ça devient de plus en plus difficile à distinguer. Sur le plan juridique, cette évolution, elle dépasse largement les textes qui sont existants. Le traité de l'espace, qui date de 1967, établit un principe fondamental. L'espace extra-atmosphérique ne peut être revendiqué par aucun État et constitue un patrimoine commun de l'humanité. Mais ce traité, eh bien, il n'évoque ni la gestion des données, ni la multiplication des satellites commerciaux, ni ces infrastructures hybrides qui mêlent intérêt public et intérêt privé. Et ce vide réglementaire, ça permet justement aujourd'hui aux grandes entreprises du secteur spatial de s'implanter rapidement en orbite, souvent avec le soutien à la dépendance stratégique des États. Aujourd'hui, la constellation Starlink, elle compte environ 8500 satellites opérationnels, soit plus de la moitié des satellites actifs autour de la Terre selon plusieurs estimations. Et un tel réseau représente un levier technologique et géopolitique considérable. Et donc, dans ce contexte, la détection de signaux inhabituels émis par certains satellites ne constitue peut-être qu'un détail technique, mais elle rappelle une réalité plus large, c'est que l'espace est désormais donc un territoire stratégique où se rejouent au-dessus de nos têtes les rapports de forces économiques, technologiques et militaires de la planète. Donc voilà, cette découverte de façon un peu impromptue par ce radio-amateur, chercheur également canadien Scott Tiley, voilà, chercher son nom, ça ouvre pas mal de perspectives parce que ça relance un petit peu les interrogations sur cette multiplication des satellites militaires en orbite basse et... Et ce qui est assez intéressant, c'est que cet observateur canadien affirme avoir identifié plusieurs satellites liés à un programme qui est quasiment secret, hein, Star Shields, développé donc par SpaceX pour le gouvernement américain. C'est ça qui est quand même assez intéressant, voire assez troublant, bien évidemment. C'était cet article de Futura Science que je trouvais assez intéressant à évoquer, bien évidemment. Autre sujet, aucun rapport, je trouvais que c'était assez étonnant d'évoquer cet article qui explique que quelqu'un s'est enfermé avec 100 moustiques pour la science et de voir un petit peu ce que cela va donner. Être la cible d'une armée de moustiques assoiffées de sang, c'est quand même un peu une situation pas nécessairement réjouissante. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Christopher Zuo, qui est un étudiant de Georgia Tech aux États-Unis. Et tout ça pour la bonne cause. En fait, il a en quelque sorte donné son corps à la science. Il s'est laissé volontairement enfermer dans une pièce avec une centaine de moustiques pendant 4 minutes, 4 longues minutes. Ce qui ressemble quand même beaucoup un espèce de plan sadique de quelques chercheurs. Ça avait un objectif précis, hein, c'était de comprendre ce qui anime les moustiques. Alors, quelques précautions avaient quand même été prises, hein. Les chercheurs s'étaient notamment assurés au préalable que leurs moustiques utilisés n'étaient porteurs d'aucune maladie. Ouf, heureusement, parce que le chikungunya, la dengue, le zika, le paludisme, hein, les affections véhiculées par les moustiques font chaque année environ, on estime, à 700 000 morts par an dans le monde. C'est quand même énorme, bien évidemment, c'est plus que les guerres. Le coût économique est colossal aussi. On estime environ à 22 milliards de dollars par an, rien qu'en insecticides et en moustiquaires. Le tour pour combattre une petite chose, un petit moustique qui pèse 10 fois moins qu'un grain de riz. Il existe apparemment 3500 espèces connues de moustiques sur Terre et parmi elles, plus d'une centaine raffolent du sang humain. Et les scientifiques savent que ce ne sont pas leurs yeux qui leur permettent de repérer leur proie. À plus de quelques mètres, les moustiques sont tout à fait incapables de distinguer un petit arbre d'un homme. Tout se passe dans leur minuscule cerveau qui décrypte des signaux de type chaleur, humidité, odeur. Et surtout, ils identifient le dioxyde de carbone que nous expirons. Mais alors, est-ce qu'on pourrait en savoir plus de façon plus précise? Eh bien, c'est pour comprendre. Ce sont donc ces chercheurs de Georgia Tech aux États-Unis. Ils ont travaillé également avec le MIT, l'Institut National du Massachusetts. On en parle souvent du MIT dans cette émission, parce que c'est un gros centre de recherche. Eh bien, ils ont travaillé ensemble et ils ont tout filmé avec une caméra infrarouge 3D. L'idée, c'était d'enregistrer une centaine d'images par seconde. Donc, comme ça, on avait des informations assez précises. Et ça permet de suivre des centaines d'insectes qui volaient dans une pièce et en quelques heures, ils ont généré ainsi plus de données sur le vol des moustiques que jamais auparavant. Donc ça n'a pas duré longtemps, mais ils ont eu plein d'informations. Alors, la quantité de piqûres infligées à l'étudiant en si peu de temps a poussé les chercheurs à rapidement trouver une alternative pour poursuivre l'expérience. Il y a eu un mannequin en polystyrène associé à une bonbonne de CO2 qu'ils ont également mis, parce qu'au bout d'un moment, l'étudiant n'arrêtait pas d'être piqué, donc on va quand même pas, on va quand même le sortir d'ici. Voilà ce qui a finalement permis à l'équipe de collecter 20 millions de données en minimisant les souffrances. Dans la revue Science Advances, les chercheurs détaillent de quelle façon ils ont finalement développé une espèce de modèle mathématique qui décrit comment et où les moustiques, alors c'est une moustique femelle qui pique, on se rappelle, comment elles se déplacent, où elles se déplacent, comment elles nous attaquent. Des études précédentes avaient montré que les signaux visuels et le dioxyde de carbone attirent les moustiques, mais nous ignorions comment elles combinaient ces signaux pour déterminer leur trajectoire. C'est ce qu'explique l'un des responsables de cette équipe de recherche. Ce sont comme des petits robots, il nous suffisait de découvrir leurs règles. Alors, ils ont fait en sorte que les moustiques, les chercheurs disent, des moustiques, c'est comme les clients d'un bar. Ils ne sont pas là par hasard, ils sont attirés par des signaux identiques. Les boissons, la musique, l'ambiance, eh bien, c'est la même chose pour les moustiques. Au lieu de suivre le meneur, l'insecte suit les signaux et se trouve au même endroit que les autres. Et les essaims de moustiques, donc, ce ne sont pas dus à un comportement grégaire, mais au fait que chacun perçoit des signaux qui le mènent au même endroit, au même moment. Donc, il n'y a pas une, comment dire, c'est pas un essaim de moustiques qui se déplace. C'est-à-dire que tous les moustiques repèrent la même odeur, la même chose, et donc ils vont aller au même endroit, au même moment. C'est pour ça qu'on a ces nuées de moustiques dans des zones assez restreintes. Pour ceux qui voudraient expérimenter par eux-mêmes, mais sans risque d'être piqués, les chercheurs proposent une application. Choisissez un nombre de moustiques et les signaux que vous voulez leur envoyer, que ce soit des signaux visuels ou alors du dioxyde de carbone ou les deux, et puis vous pouvez observer leur réaction. Vous voyez comment ils changent de direction, comment ils accélèrent, comment ils ralentissent. Vous capterez alors peut-être aussi ce que les scientifiques ont noté, c'est-à-dire que les moustiques ont tendance à ne pas rester longtemps autour de leur cible lorsque les signaux visuels et le dioxyde de carbone ne sont pas utilisés simultanément. Donc les pièges conçus pour attirer les moustiques en diffusant du CO2 ou de la lumière gagneraient en efficacité s'ils le faisaient de manière intermittente plutôt que constamment. C'est-à-dire que l'analyse qui a été faite en ayant balancé cet étudiant dans cette cage remplie de moustiques nous permet de comprendre un petit peu mieux comment on pourrait éradiquer, alors pas nécessairement éradiquer, mais mieux comprendre si on sait comment ils agissent avec certaines techniques qu'on pourrait être en mesure de pouvoir les repousser. Et c'est ça tout l'intérêt de ce genre de recherche. 700 000 morts dans le monde à cause des moustiques et notamment des maladies qu'ils permettent de pouvoir diffuser et transmettre. C'est un véritable enjeu, bien évidemment. Donc, bravo à cet étudiant. On a son nom, il s'appelle Christopher Zuo. Eh bien, merci à lui de s'être porté volontaire et de s'être fait piquer. Affaire à suivre, bien sûr, parce qu'au niveau des moustiques, il y a quand même, enfin des moustiques au sens large, on en parle assez régulièrement quand même dans cette émission, parce que c'est quand même un sujet de recherche assez primordial, bien évidemment. On écoute un peu de musique sur l'antenne de Graphite et on continue ensemble à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique.
Je suis une étoile, je suis bancal, fragile, timide, peureux et friable. Je suis l'enfant qu'on moque, le canque, le petit gros, le pas joli. Je suis marginal parce qu'ils en ont décidé ainsi. Je suis le vent, la pluie, l'orage, l'éclaircie. Je suis le fantasme, le désir, le rêve, je suis l'utopie. Je suis le premier pas, la course, la chute, la rechute, l'obstination. Je suis silencieux mais j'en pense pas moins, indignation. Je suis un sourire, une main tendue, une caresse, le pardon. Je suis pour vous un animal, un monstre, un fou, une abomination. Je suis un ver de terre, un rat, un fauve et un lion. Je suis une idée, un courant, une pensée, une révolution. J'suis une rage, une colère, un charivari, un cri. Une rature, un tag, un graffiti, un cri. Un fracas, une explosion, un big bang, un cri. Un silence assourdissant qui fait du bruit, un cri. Un accident, un court-circuit, un cri. Une note, un espoir, juste une mélodie, un cri. J'suis la voix des incompris, le chant des insoumis. Je suis un cri. J'suis un sourire, un regard, une main tendue, le pardon. Un animal, un monstre, un fou, une abomination. J'ai un ver de terre, un rat, un fauve et un lion. J'ai une idée, un courant, une pensée, une révolution. J'ai une crampe, une gêne, un mal-être, une démangeaison. Un abri, un refuge, un jardin secret, un feu en hiver. L'ivresse d'un baiser, d'une caresse. Je suis ton frère. J'suis une rage, une colère, un charivari, un cri. Une rature, un tag, un graffiti, un cri. Un fracas, une explosion, un big bang, un cri. Un silence assourdissant qui fait du bruit, un cri. Un accident, un court-circuit, un cri. Une note, un espoir, juste une mélodie, un cri. J'ai la voix des incompris, le chant des insoumis. Je suis un cri. Fragile, timide, peureux et friable. Je suis l'enfant qu'on moque, le canque, le petit gros, le pas joli. Je suis marginal, parce qu'ils en ont décidé ainsi. Je suis un cri. Je suis une rage, une colère, un charivari, un cri. Une rature, un tag, un graffiti, un cri. Un fracas, une explosion, un big bang, un cri. Un silence assourdissant qui fait du bruit, un cri. Un accident, un court-circuit, un cri. Une note, un espoir, juste une mélodie, un cri. Je suis la voix des incompris, le chant des insoumis. Je suis un cri. Je suis un cri. Je suis un cri. Je suis un cri. Je suis un cri.
Un cri, coffees and cigarettes sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Allez, on retrouve l'actualité scientifique avec cette découverte réalisée par l'équipe du professeur Pen Wang. C'est à l'Université des sciences et de technologie du roi d'Abdallah. Tiens, ça nous emmène quand même dans des pays qu'on n'évoque pas souvent dans cette émission. Il répond en fait, elle répond cette découverte à un défi majeur de notre époque. Alors que le réchauffement climatique intensifie les vagues de chaleur et que plus de 700 millions de personnes vivent sans accès à l'électricité, eh bien ces scientifiques ont développé une technologie révolutionnaire baptisée Nescode. Ce système exploite les propriétés physiques du nitrate d'ammonium pour créer du froid sans consommer d'énergie électrique. Alors ça, c'est quand même révolutionnaire et c'est fascinant. Le principe de fonctionnement repose sur un phénomène chimique captivant qui est la dissolution en eau thermique. Alors contrairement aux réactions qui dégagent de la chaleur, il y a certaines transformations qui en absorbent depuis leur environnement. C'est exactement ce qui se produit quand le nitrate d'ammonium se dissout dans l'eau. Et donc les équipes de ce professeur Peng Wang ont testé plusieurs plusieurs types de sel pour identifier le plus efficace. Et donc, le nitrate d'ammonium s'est imposé grâce à une solubilité exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on est capable d'en mettre beaucoup par litre d'eau. C'est ça qui est aussi assez intéressant. Cette caractéristique lui confère un pouvoir refroidissant 4 fois supérieur à celui du chlorure d'ammonium qui était son concurrent direct. L'avantage de ce composé ne s'arrête pas à ses performances. Il est largement utilisé dans l'industrie des engrais. Le nitrate d'ammonium reste accessible financièrement. Il reste facile à stocker également. Sa conservation à long terme ne pose aucune difficulté technique particulière, ce qui facilite son déploiement dans des régions isolées. Alors, les expérimentations qui ont été menées ont révélé des résultats impressionnants. Dans un récipient métallique isolé thermiquement par une boîte en polystyrène, l'eau additionnée de nitrate d'ammonium a vu sa température chuter drastiquement en seulement 20 minutes. Elle est passée de 25 degrés à 3 degrés 6. C'est quand même extraordinaire. La durabilité de l'effet constitue un autre atout majeur parce que la température du récipient elle est restée inférieure à 15 degrés pendant plus de 15 heures consécutives. Selon les calculs des chercheurs, la puissance frigorifique de ce système Nescode pourrait atteindre 191 watts par mètre carré, ce qui est quand même assez intéressant. Ces performances, elles ouvrent des perspectives d'applications variées. Le refroidissement des bâtiments dans les zones rurales, la conservation des aliments sans qu'on ait une réfrigération électrique, la climatisation des espaces de stockage sensibles à la température et des solutions d'urgence lorsqu'il y a des coupures d'électricité. Donc l'innovation elle ne s'arrête pas au refroidissement initial, parce qu'une fois que le sel est complètement dissous, la chaleur solaire intervient pour évaporer l'eau du contenant. Et donc, cette évaporation de l'eau, ça permet de récupérer quoi ? Eh bien, ça permet de récupérer ces cristaux de nitrate d'ammonium qui vont se reformer naturellement, qui peuvent être réutilisés dans un nouveau cycle de refroidissement. C'est ça tout l'intérêt. Cette séparation temporelle entre le refroidissement et la régénération, ça représente un avantage considérable, puisque ça permet de stocker l'énergie thermique solaire et de l'utiliser selon les besoins, même d'une saison à l'autre. Dans les régions arides, l'eau évaporée peut être récupérée grâce à un distillateur solaire, ce qui évite ainsi tout gaspillage de cette ressource assez précieuse. Et donc ce système Nescode répond particulièrement aux besoins des populations vivant en dehors du réseau électrique, dans des climats chauds et ensoleillés. Et ces conditions qui sont souvent perçues comme contraignantes, elles deviennent ici des atouts pour alimenter naturellement le processus de régénération du système. Alors les chiffres de la consommation énergétique liés au refroidissement sont vertigineux. Les climatiseurs représentent aujourd'hui 9% de la production électrique mondiale annuelle. C'est quand même énorme, 9%, un pourcentage qui pourrait grimper à 20% d'ici 2050. En Arabie Saoudite, 70% de l'électricité estivale est dédiée au refroidissement. 70% de l'électricité utilisée en été, c'est pour refroidir. C'est quand même des chiffres faramineux énormes. Aux États-Unis, près de 90% des logements disposent de la climatisation, et ce qui génère quand même des tonnes et des tonnes de dioxyde de carbone chaque année. En Chine, le taux d'équipement urbain est passé de 8 à 70% en moins de 10 ans. Donc c'est quand même assez important. Et donc face à ces défis environnementaux et ses défis énergétiques, le système de refroidissement sans électricité inventé donc par ces scientifiques d'Arabie Saoudite, ça offre une alternative prometteuse pour réduire notre dépendance aux systèmes conventionnels qui ont plutôt grands consommateurs d'énergie. Et donc cette innovation dont les travaux de recherche ont été publiés dans la revue Energy and Environmental Science pourrait bien réformer l'accès au confort thermique dans les régions les plus défavorisées de la planète. C'est vraiment une découverte très très intéressante de cette technologie qui pourrait remplacer la clim et révolutionner. Enfin voilà, c'est quelque chose qui a été annoncé assez récemment. Alors, voir après comment tout cela va être déployé, bien évidemment. Mais c'est quand même une information qui est assez essentielle. Au niveau médical, on sait que le diagnostic des maladies qui touchent le cerveau, ce diagnostic est souvent complexe, mais il y a une étude récente qui pourrait changer la donne. Des scientifiques de l'Institut coréen des sciences des matériaux, de l'Université de Corée et de la Faculté de médecine de Corée, et ils ont mis ces scientifiques au point un test de diagnostic précoce de l'épilepsie, de la maladie de Parkinson et de la schizophrénie. Tout cela à partir d'une goutte de salive. Tout ça suffit pour une précision supérieure à 90%. C'est une première mondiale. On avait déjà parlé dans cette émission, maintenant on a un peu plus de précision. Ces travaux de recherche ont été publiés dans la revue Advanced Materials. C'est l'une des revues les plus prestigieuses du monde. Les équipes du docteur Sung-Yu Park et du professeur Oh Sang-Young, ils ont créé une plateforme qui détecte les changements structuraux des protéines seulement à partir de la salive. Et ces changements structuraux des protéines, ce sont des signes de la présence de certaines maladies. Cette nouvelle méthode de diagnostic, elle pourrait remplacer celles qui sont actuellement utilisées, souvent coûteuses, souvent invasives aussi, qui s'appuient sur des analyses de sang par exemple, ou pire, sur des analyses du liquide qu'on a au niveau du cerveau, le liquide céphalo-rachidien. Alors pour tester l'efficacité de cette nouvelle plateforme, les chercheurs ont analysé des échantillons de salive issus de 44 personnes atteintes d'épilepsie, de schizophrénie et de maladie de Parkinson, mais aussi des échantillons de salive de 23 sujets qui étaient sains. Et le test salivaire a non seulement permis de détecter les personnes atteintes d'une maladie neurologique, mais il a aussi été capable de distinguer les différentes maladies. C'est ça quand même aussi assez intéressant. Les chercheurs indiquent que la précision du classement des différents troubles est supérieure à 90%, voire 98% dans certains cas. Et pour pouvoir faire cette distinction entre les trois maladies neurologiques, la plateforme s'est concentrée sur les modifications de structure des protéines qui sont présentes dans la salive plutôt que sur leur concentration totale. C'est-à-dire qu'ils ont préféré voir quelle forme avait cette protéine. Il s'agit d'une avancée majeure et assez importante à l'échelle mondiale, bien évidemment. Donc l'un de ses responsables, le docteur Sung-Yu Park, explique « Une nouvelle ère s'ouvre pour le diagnostic des maladies cérébrales par une simple analyse de salive, sans recourir à l'imagerie coûteuse ni à l'analyse du liquide céphalo-rachidien. La publication de ces travaux dans une revue internationale de premier plan confère à cette technologie une reconnaissance mondiale de son originalité et de son caractère novateur. » Alors pour le professeur Oh Sang-Young, ce test salivaire permettrait de ne pas limiter le diagnostic de ces maladies uniquement aux médecins. Non invasive et peu coûteuse, eh bien cette technologie présente un fort potentiel d'expansion au-delà des services de consultation externe hospitalier pour inclure des dispositifs de diagnostic à domicile. Alors le prochain objectif des chercheurs, c'est de commercialiser ce test en développant des dispositifs de diagnostic portables qui seraient basés donc sur cette technologie innovante et en favorisant le transfert de technologie vers les entreprises du secteur médical et des sciences de la vie. Voilà, c'est assez révolutionnaire aussi de cette technologie qui permet donc de distinguer, de diagnostiquer et de distinguer à un stade précoce trois maladies neurologiques fréquentes grâce à une petite goutte de salive. C'est vraiment dans cette émission, on apprend des choses qui sont vraiment positives et qui nous donnent confiance en notre avenir, bien évidemment. On écoute allez, un dernier titre dans cette émission et on regardera les derniers articles de cette émission Biotine sur l'antenne de Graphite. Qu'est-ce que vous êtes bien? Qu'est-ce que nous sommes bien ensemble?
Parce que tu es mon contraire. Je serai le sable et tu serais la mer. On pourrait nager sous les bateaux et jeter les envies solitaires. Retiens mon désir, ne laisse pas s'enfuir. Je serai le vent et tu serais la terre. On pourrait marcher dans l'avenir, changer la couleur de Je serai le feu et tu serais la pierre. Prendre le tout dernier métro dans les couloirs et leur courant d'air. Retiens mon
Retiens mon désir, c'était Cléa Vincent sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Biotine sur Graphite.
Allez, on a une petite dizaine à peine de minutes devant nous. On va feuilleter les revues de vulgarisation scientifique. Science et Avenir du mois d'avril aborde l'intelligence artificielle et les langues régionales. À l'heure où l'écosystème de la synthèse vocale et des agents de conversation, eh bien, ça reste dominé quand même par l'anglo-américain. Il y a un projet qui s'appelle COLAF, Corpus et outils pour les langues de France. C'est un projet qui vient de l'INRIA et l'idée, c'est de faire exister les langues régionales. Une campagne de collecte d'extraits vocaux dans ces langues destinée justement à l'entraînement des algorithmes qui est en cours. Alors, on appelle ce projet Parole spontanée et elle dispose justement, cette campagne de collecte, d'un espace sur une plateforme en ligne qui s'appelle Common Voices. Alors ça, c'est bien ce que la... Ils veulent les langues régionales, mais ils mettent ça sur une plateforme qui s'appelle Common Voices. Ok, n'importe quel locuteur volontaire peut donc s'enregistrer, à condition pour l'instant qu'il parle alsacien. Oui, parce que c'est la langue alsacienne qui est la première langue concernée. L'université de Strasbourg, est donc partenaire du projet. Alors, il y aura ensuite le breton, le picard, sûrement apparemment le chiamorais qui est parlé à Mayotte et peut-être aussi le corse. Il faut beaucoup de données si on veut développer un système de reconnaissance et de synthèse de la parole. C'est ce qu'explique Slim Ouni, qui est responsable de l'équipe projet Multispeech au CNRS et à l'université de Lorraine. Mais il explique, or, concernant les langues régionales, nous sommes très loin des volumes de données dont bénéficient les systèmes utilisés tous les jours, et donc de tels corpus existent sur Internet, mais ils sont surtout conçus pour les linguistes, donc ils sont peu adaptés, en fait, à des travaux en intelligence artificielle. Et donc cette campagne vise à les compléter par des données de parole correspondant à des usages de tous les jours. C'est ce qui est donc évoqué. Alors, l'internaute est donc invité à répondre à une ou plusieurs questions sur des sujets très, très simples, hein, proposés donc par l'interface, sur le ton de la conversation, y compris dans un espèce de brouhaha ambiant. Et il peut aussi retranscrire des sons d'autres intervenants. C'est une étape essentielle pour étiqueter les données et faire apprendre justement la langue à l'algorithme. Et cette dimension participative, elle inclut encore la proposition de questions dans la langue, la validation de celles soumises par d'autres, notamment pour éviter les dérives, et même aussi des transcriptions, et les contenus validés sont versés dans une base de données téléchargeable par n'importe qui. Alors l'opération n'est pas limitée dans le temps, hein. Tant que la démarche intéresse les gens, ils peuvent continuer à répondre et enrichir la base. Elle n'appartient pas au projet COLAF, mais à l'utilisateur, au locuteur, c'est ce qu'explique donc le responsable de ce projet. Débuté par l'alsacien, ça a un intérêt particulier parce que cette langue, elle n'est pas enseignée à l'école, mais elle est apprise par transmission familiale et sociale. La prononciation et l'écriture ne sont donc pas standardisées. Il existe une variété linguistique que les chercheurs en intelligence artificielle souhaitent explorer et que les experts en dialectologie veulent analyser, et donc avec l'ambition d'associer aux algorithmes d'apprentissage automatique ce qui leur manque souvent, c'est-à-dire de l'explicabilité, en l'occurrence celle des subtilités d'une langue qui est générée comme ça. Donc l'intelligence artificielle pourra peut-être parler alsacien. En tout cas, il y a donc un appel qui est lancé à une collecte de données vocales en alsacien. Donc si vous savez parler l'alsacien, vous vous connectez donc sur le site Common Voice. Le projet s'appelle Parole spontanée et vous allez pouvoir donc parler alsacien et on aura pour plus tard une petite trace de cette belle langue régionale que j'imite très très mal, même si j'ai vécu à Strasbourg. Au niveau médical, dans Science et Avenir, on apprend que des patients daltoniens atteints d'un cancer de la vessie présentent un risque de mortalité supérieur de 52% sur 20 ans, selon une étude américaine. En cause, la difficulté à percevoir le rouge, qui empêche souvent de détecter le principal signe précoce de la maladie, à savoir la présence de sang dans les urines, c'est ce que l'on nous dit. Cette méconnaissance retarderait le diagnostic, ce qui conduirait à une prise en charge de la maladie à un stade plus avancé. Donc le daltonisme aggraverait le pronostic du cancer de la vessie. C'est ce que nous annonce donc cette équipe de l'université de Stanford aux États-Unis. Autre information, c'est le fait de vivre en altitude. Un environnement qui serait donc pauvre en oxygène, eh bien, ça modifie en profondeur la façon dont l'organisme régule le sucre sanguin. Une équipe américaine vient de montrer que sous l'effet de l'altitude, les globules rouges adaptent leur métabolisme et captent davantage de glucose qui va contribuer à abaisser la glycémie. Lorsque nous avons administré du sucre à des souris en hypoxie, il a disparu de leur circulation sanguine presque instantanément. C'est ce qu'indique Yolanda Marty Mateos, qui est la première auteure de cette étude, qui est parue dans la revue Cell Metabolism. C'est un mécanisme qui a pu être corroboré par des observations chez l'humain et explique les plus faibles taux de diabète déjà observés chez les populations qui vivent en altitude, au Tibet, dans les Andes par exemple. Ces résultats ouvrent surtout une piste thérapeutique prometteuse, ce serait celle de mimer cet effet pour améliorer la régulation du glucose et de limiter les complications liées au diabète. Donc le fait d'avoir moins d'oxygène conduit les globules à modifier leur métabolisme et donc à diminuer apparemment les risques de diabète. Affaire à suivre bien évidemment, mais c'est quand même une découverte assez, assez étonnante. On a dans ces petites brèves de Science et Avenir aussi des petites informations que je trouve toujours intéressantes. C'est de savoir quelle est l'origine du bruit que l'on a lorsqu'on déroule un ruban adhésif, en espèce toujours de ce bruit un peu strident. Eh bien, il y a eu une équipe qui a travaillé dessus grâce à des microphones et des caméras qui prenaient jusqu'à 2 millions d'images par seconde. 2 millions d'images par seconde. C'est-à-dire la finesse quand même des données qu'ils ont pu avoir. Il y a des physiciens de l'université de sciences et technologies de Chine qui ont découvert que le décollement du scotch engendre des micro-fissures successives qui se propagent